Radio Okapi. Le journal en français, Jacques-Yves Molima.
Carence de carburant constatée à Kinshasa, c'est juste une baisse drastique du volume des stocks physiques, explique le ministère des hydrocarbures. Mais pour les opérateurs pétroliers, que le gouvernement rembourse le manque à gagner dû au système de subvention, supprime ce système et fixe le prix réel pour une solution efficace et durable. Et puis reprise des cours à Watalinga au Nord Kivu, mais cela n'a pas été le cas pour certaines agglomérations situées dans la profondeur de cette entité où les locaux sont détruits à la suite de l'activisme des groupes armés dans les années. Enfin, comment s'organisent les activités de pêche dans la province du Maniema? Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal Moïse Osombaluta. Il est l'inspecteur provincial de pêche et élevage de la province du Maniema. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Vous le savez, surtout vous qui habitez à Kinshasa, de longues files de véhicules sont observées dans les stations-service depuis 3 jours maintenant, pour cause une pénurie de carburant. Le secteur de l'aviation n'est pas non plus épargné, beaucoup d'avions sont cloués au sol, les vols sont souvent annulés suite au manque de kérosène. Cette question était au centre du débat hier soir dans l'émission Dialogue entre Congolais de Radio Okapi, présentée par Kelly Kouté. Tony Tiermani, conseiller technique aval du ministère des Hydrocarbures, qui a participé à cette émission, explique qu'il ne s'agit pas d'une pénurie, mais plutôt de la baisse drastique du volume des stocks physiques, notamment dans le terminal SEP Congo. Selon lui, les sociétés pétrolières disent attendre le paiement de leurs créances par l'État pour se réapprovisionner comme il se doit. Tony Tiermani promet que d'ici le 14 septembre prochain, la situation va se normaliser. On l'écoute.
Les sociétés commerciales ont une faible capacité de se réapprovisionner pour des raisons qui avaient déjà été expliquées depuis longtemps. Vous savez, les sociétés pétrolières sont en partenariat avec le gouvernement et vous savez que le gouvernement régule le prix des produits pétroliers et il y a des créances que ces sociétés attendent de l'État congolais et nous avons certifié le perte manque à gagner enregistré par ces sociétés. Et donc, ce qui fait que, en attendant que ces sociétés bénéficient de leur paiement, le paiement de leurs créances, évidemment, c'est une évidence que ces sociétés aient une faible capacité de se réapprovisionner. Et donc, le stock en place est bas. Cela pousse le système à mettre en place le plan de contingentement en attendant les navires qui arrivent. Déjà, pour les jets, la situation va se normaliser dans les 3-4 jours. Pour l'essence, dès la semaine prochaine, la situation va se normaliser. Pour le gasoil, il n'y a pratiquement pas de problème. Donc, on ne va pas vivre avec ça. C'est pour cela que les solutions sont en train d'être trouvées pour une longue durée. Donc, il n'y a pas de problème.
En réaction, Simplice Moulumba, directeur général de la société pétrolière Okapi Distribution, affirme qu'il suffit que le gouvernement rembourse aux sociétés pétrolières le manque à gagner dû au système de subvention, estimé à environ 400 millions de dollars américains, supprime ce système et fixe le prix réel pour que le problème soit résolu de manière efficace et durable. Il était l'un des invités à cette même émission. On l'écoute.
Ce que nous pouvons demander en tant qu'opérateur économique au gouvernement, c'est de payer tout le manque à gagner en souffrance et aussitôt réajuster les prix à la pompe pour créer l'équilibre. Saviez-vous que, à ce jour, les taux pour lesquels on a fixé les prix actuels à la pompe est de 1951,47. Je vois aucune banque commerciale à Kinshasa comme partout ailleurs sur toute l'étendue de la République, mais vendre les dollars à ces taux-là. Donc nous sommes perdants sur toute la ligne. En achetant les dollars, nous perdons. En vendant les produits, nous perdons. Donc perte sur perte. Le problème est si simple. Le gouvernement peut terminer ce petit problème en moins de 48 heures. Ce sont les hommes qui doivent décider. Dire bon, nous n'allons pas continuer avec ce système parce que ça laisse à désirer. Appliquons le prix réel et l'affaire est réglée.
Dossier signé Guy Matetiongo. Pendant ces temps sur le terrain, transporteurs et passagers ne savent plus à quel sens se vouer. Des taximens interrogés par notre reporter dans une station-service de la place disent ne pas savoir les causes de cette carence. Taximens, motards et autres véhicules de particuliers sont obligés de patienter pendant des heures pour espérer obtenir quelques litres de carburant. Kelioka nous raconte.
Nous sommes à la station Sosima de la commune de la Gombe. Les propriétaires des véhicules et motards attendent pendant des heures pour être servis. Une situation qui semble ne pas s'arranger pour ces habitués de la route. Témoignage.
Je fais pratiquement 3 heures du temps. On nous dit toujours d'attendre, soit on ne vend pas, qu'ils doivent arriver d'ici le 14 septembre. C'est ce qui a fait assez qu'il y a cette carence. Ça nous bloque en fait. Hier, j'ai fait encore 2 heures du temps dans l'embouteillage.
C'est un problème de carence des carburants parce qu'il n'y a pas de carburant, il n'y a pas l'arrivée. Bon, on va attendre des citernes d'un moment à l'autre. Bon, c'est pour cela qu'on est en train d'entendre.
Maintenant, moi, mon véhicule a des réservoirs. Mais quand j'achète 10 litres, ça me fait quoi? Donc, je ne sais pas même avancer.
Je suis arrivé ici, il devait être 9 heures. Ils étaient encore en train de servir. 5 minutes après mon arrivée, ils ont arrêté en disant que le niveau de carburant était trop bas et qu'ils ne pouvaient plus pouvoir servir tout le monde.
Les employés de la station-service de Socimat à Gombe, contactés, n'ont pas voulu s'exprimer.
Restons dans la capitale Kinshasa, toujours dans le secteur des transports. Sachez que 4 personnes, dont 3 taximen moto, sont mortes dans un accident de circulation survenu hier mardi après-midi sur l'avenue Marine à l'UPN, commune de Ngaliema. Selon le bourgmestre de cette commune, il s'agit d'un camion Ben qui a connu une panne de système de freinage et qui a fini sa course en cognant plusieurs personnes. Dieu merci, Maïbanzi Luanga explique au téléphone de Grâce Amzati.
C'est vers 15h les après-midi où il y avait un gros camion Ben qui transportait le moellon où le système de freinage était totalement déjà dans une situation défectueuse et a fait en sorte que le véhicule n'avait plus la capacité de s'arrêter. Et en cours de route, il a ramassé 4 personnes, 3 garçons et une femme. Donc la majorité sont des motards. Les 3 là, c'était des motards. Ils sont décédés sur place. Et puis il y a 4 personnes encore qui sont dans une situation très compliquée. Ils sont au niveau du coma dans le centre de l'hôpital à Borne. Les gens, ils doivent comprendre une chose. Avant de sortir, surtout les gens qui ont des véhicules ou qui conduisent, ils doivent vérifier si leurs véhicules sont en bon état.
Et qu'en est-il du véhicule accidenté et même de son chauffeur?
Le véhicule a été brûlé par les amis des personnes où la vie a été fauchée. Et je suis en communication avec les commandants, les colonels, et s'il y a qui peine pour connaître davantage la situation. Mais c'est bien sûr que le calme est revenu.
En territoire de Beni, la rentrée scolaire a été effective dans la sous-division de Kamango en chefferie de Watalinga. Mais cela n'a pas été le cas pour certaines agglomérations situées dans la profondeur de cette entité où les locaux sont détruits à la suite de l'activisme des groupes armés, dont les ADF. Les acteurs locaux de la société civile et des droits de l'homme plaident pour qu'une solution urgente soit trouvée par le gouvernement. Des précisions avec Blaise Ndongala.
Plusieurs écoles de la chefferie de Watalinga ont été délocalisées après que les rebelles ADF ont détruit leurs locaux. Elles fonctionnent notamment à Nobili, Kamango, Kikoura, Luanoli et Kikingi. Ces écoles connaissent cependant des sérieux problèmes d'infrastructure, nous informe le président du comité des parents de Kamango, chef-lieu de cette entité coutumière. De leur côté, les acteurs de la société civile et activistes des droits de l'homme demandent au gouvernement de trouver une solution urgente à cette situation afin que les enfants étudient dans de bonnes conditions. David Mouazé, membre de la société civile dans cette zone.
Nous formulons des recommandations et aussi nous alertons les clusters éducation des humanitaires en fait de penser à la situation qui prévaut actuellement pour que ces écoles puissent fonctionner dans de meilleures conditions, notamment chercher comment construire même des écoles d'urgence en fait que les enfants puissent étudier normalement parce que c'est leur droit.
Signalons que la sous-division de Kamango prend tous les groupements de Banyangala ainsi que les agglomérations de Kikingi. Ce sont des entités sécurisée de la chefferie de Watalinga.
Au Kasaï central, les enseignants matriculés et non matriculés du secondaire décident de boycotter la rentrée scolaire. Dans un mémorandum adressé aux autorités, ils s'indignent de constater qu'ils ne sont toujours pas payés alors que le gouvernement avait pris l'engagement lors de l'accord signé en Mbuela Lodge de les rémunérer dès le premier trimestre de l'année en cours. Cette mesure de boycott court jusqu'au 26 septembre et ils veulent voir leur situation salariale régularisée. Un extrait de leur mémo lu par leur porte-parole. Ces propos sont recueillis par François Kadima.
Vu les conditions précaires dans lesquelles vivent les enseignants mécanisés et non payés du Kasaï central, nous déclarons les boycotts de la non-reprise des cours à l'enseignement secondaire jusqu'au 26 de ces mois ici. Demandons à tous nos collègues professeurs de se joindre à nous pour sécher les cours. En exigeant ce qui suit, paiement des enseignants mécanisés et non payés du secondaire dans un délai raisonnable, en vue de permettre à l'enseignant congolais de bien travailler, l'amélioration des conditions salariales de tous les enseignants vu les loyaux services qu'ils rendent à l'État congolais, réserver une retraite convenable aux enseignants éligibles à cette dernière pour leur permettre de pouvoir survivre vu les travaux nobles qu'ils ont rendus à l'État congolais. Chaque travail mérite salaire et l'enseignant congolais mécanisé et non payé a droit à la vie étant responsable de la famille.
Et puis nous poursuivons notre série de reportages consacrés au territoire de Walikale, le plus vaste de la province du Nord Kivu. Walikale regorge une grande richesse en biodiversité. Avec une forêt qui couvre plus de la moitié de son étendue, ce territoire contribue à la lutte contre le réchauffement climatique. Walikale regorge également d'une importante partie des parcs nationaux, le Kahuzi-Biega au sud et le Maïko au nord, sans compter un important réseau de concessions forestières des communautés locales. Sifa Maguru.
En plus de sa position par rapport aux aires protégées d'intérêt national et international que sont les parcs nationaux, la dizaine de concessions forestières des communautés locales qui régorgent les territoires de Walikale lui confère une place importante sur le plan environnemental. Ces CFLC attirent notamment l'intérêt des ONG environnementales soucieuses de protéger notamment les grands singes comme les gorilles, des grouets et des chimpanzés. C'est entre autres John Goodall Institute, Diane Fossey Gorille Fund International, le réseau CREF et d'autres. On peut parler aussi des réserves communautaires entretenues par les associations locales. Floribert Massani, chargé de programme du réseau CREF, revient sur d'autres aspects importants de cette biodiversité de Walikale.
Tous ces cours d'eau très denses dans le territoire de Walikale constituent un potentiel pour la production de l'énergie propre, de l'énergie renouvelable et donc de l'hydroélectricité.
Cet acteur de l'environnement insiste sur la nécessité de contrôler l'exploitation des nombreux minéraux qui régorgent les territoire de Walikale et appelle à la promotion de l'économie verte par notamment la valorisation des services écosystémiques des forêts de Walikale riches en biodiversité.
Autre nouvelle, appui au processus électoral en République démocratique du Congo, les États-Unis revoient leur enveloppe à la hausse. Le gouvernement américain annonce le versement de 13 millions de dollars américains supplémentaires qui viennent s'ajouter à son assistance électorale actuelle de 10,65 millions de dollars pour, je cite, appuyer des processus politiques transparents, crédibles et inclusifs en République démocratique du Congo. Fin de citation. Le document ajoute que les États-Unis continueront de travailler en partenariat avec le peuple congolais au moment où celui-ci se prépare à participer à des élections transparentes, crédibles et inclusives pour élire ses dirigeants nationaux, précise ce document. Jean-Claude Lokidile.
La diffusion de rapports précis et en temps voulu sur le processus électoral de la RDC par des observateurs indépendants et objectifs permettra aux citoyens de comprendre, de participer et de faire confiance à leurs élections. L'administration américaine se félicite de l'engagement du président Tshisekedi à organiser les élections à temps. Le soutien au renforcement des élections et des processus politiques contribuera à la tenue d'élections plus libres, plus justes et plus inclusives en RDC, ainsi qu'à l'établissement d'une culture de réforme électorale démocratique. Les États-Unis ont également engagé des enveloppes supplémentaires pour renforcer l'éducation des électeurs, soutenir des processus électoraux inclusifs et pacifiques, lutter contre la désinformation et fournir une assistance technique en vue des élections de 2023 en RDC. Ce projet continuera à appuyer la Commission électorale nationale indépendante et les organisations de la société civile jusqu'en novembre 2024. Il vise à former, encadrer et développer des ressources organisationnelles en faveur du personnel électoral et des agents électoraux, ainsi qu'à fournir une observation et une analyse post-électorale.
Actualité internationale.
Le Mali demande la levée des sanctions imposées par les organisations africaines. Bamako avait été visé par une série de mesures prises par la communauté ouest-africaine et par l'Union africaine. Le ministre malien des Affaires étrangères estime que maintenant, les progrès doivent permettre de relâcher l'étau. Et puis, Energodar, la ville où se trouve la centrale nucléaire de Zaporijia, dans le sud-ouest de l'Ukraine, a été bombardée hier mardi soir, quelques heures après la publication d'un rapport de l'AIEA appelant à une zone de sécurité autour du site contrôlé par les Russes.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est l'inspecteur provincial de pêche et élevage de la province du Maniema, Moïse Osombaluta, nous explique comment s'organisent les activités de pêche dans cette province. Il s'entretient ici avec Florence Kizalunga. Suivez.
Monsieur Moïse Osombaluta, bonjour.
Bonjour.
Quel est l'état de lieu de la pêche dans la province du Maniema et comment est-elle pratiquée?
La pêche au Maniema est du type traditionnel et artisanal et elle est pratiquée principalement dans le réseau fluvial que nous avons au Maniema. Et elle n'est pas réglementée et souvent c'est pratiqué de manière illicite par l'usage de produits toxiques comme moyen de récolte de poissons. Elle est pratiquée vaille que vaille par qui le veut et les pêcheurs ne sont pas identifiés par les services. Il n'y a pas longtemps, l'inspection de pêche et élevage est mise en place et nous nous activons à pouvoir identifier les pêcheurs, à les organiser, les structurer, à les encadrer pour booster la production de la pêche dans la province du Maniema.
Y a-t-il des textes légaux qui réglementent ces secteurs?
Bien sûr, il y a le décret de 1932, il y a le décret de 1937, il y a l'arrêté départemental de 1981. Ça, c'est le niveau national. Au niveau provincial, il y a l'édit provincial, mais il y a l'arrêté provincial pris par le gouverneur de province de 2021. Et il y a aussi la note circulaire de madame la ministre provinciale ayant dans ses attributions la pêche et l'élevage qui porte sur les mesures d'exécution de l'arrêté de son excellence monsieur le gouverneur.
Est-ce que ces textes sont-ils vulgarisés?
Jusque-là, mais c'est le début de vulgarisation avec cet atelier que nous clôturons aujourd'hui. Les textes n'étaient pas jusque-là vulgarisés.
Pourquoi?
Comme on n'avait pas de moyens au départ, heureusement que la GIZ nous est venue en appui et nous a donné le moyen d'organiser un atelier qui a regroupé différents services, même les organisations des pêcheurs, même si elles sont encore informelles.
Qu'est-ce qui suivra après cet atelier de vulgarisation?
Ce qui suivra, c'est d'abord que ceux qui ont participé à l'atelier de vulgarisation portent au loin la connaissance de la loi par la population, des textes qui réglementent la pêche par la population. Et ensuite pourra venir l'étape de la sensibilisation et celle de l'application de ces textes qui sont par ailleurs bénéfiques pour la population de la province du Maniema.
Il y a longtemps que le secteur de la pêche n'est pas réglementé dans la province du Maniema. Vous pensez qu'après cette vulgarisation, les choses vont changer?
C'est ça notre espérance. Nous pensons que les choses vont changer. Et il faut savoir évolutionner les choses. Maintenant que nous nous employons à cela, nous croyons que ça va changer. Et comme cet atelier nous donne l'occasion de porter au loin le message sur l'existence des textes réglementant la pêche, nous pensons que la population sera saisie et le message sera entendu par le grand public. Et au finish, nous voulons arriver à la pratique d'une pêche durable et responsable, profitable aux générations présentes et aux générations futures.
Un service de l'État, comment expliquer que les pêcheurs ne sont pas identifiés et moins encore structurés?
Bon, vous savez, notre structure IPEL, Inspection Provinciale des Pêches et Élevage, vient de naître récemment à la faveur de la scission qui est intervenue au ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Et au niveau provincial, c'était l'Inspection Provinciale de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Les activités de cette structure étaient dominées par les activités agricoles, celles liées à la pêche étant reléguées au second plan. Maintenant qu'il y a eu scission, nous prenons les choses en main et nous avons dit d'abord commençons par les textes qui existent, qui réglementent les secteurs de pêche et nous allons aller de l'avant. Nous avons énormément besoin de moyens, madame. Les ambitions sont nombreuses, mais les moyens sont limités.
Monsieur Moïse Osombaluta, merci.
À moi de vous remercier, madame.
Voilà, mesdames et messieurs, complètement terminée cette édition du journal, mise en onde par Alain Ngoyi, coordonnée et supervisée par Pélé Kipela Mondo. Merci pour votre particulière attention.